m'entendez? Où en étais-je?
Oh, pourquoi reviens-tu?
Grandeur et misère de la justice française. Pour un Badinter, un Leclerc, un Spinner ou un Maisonneuve, tous stars du barreau, combien de sans-grades et de grognards de la robe. Avec commis d'office, Anne-Laure Kerr nous raconte l'histoire de l'un d'eux. Ce fut un roman, voilà le film, et maître Anne-Laure Kerr est parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été avocate.
Je n'ai pas été avocate, je suis avocate.
Vous êtes toujours avocate?
Absolument. Il y a deux jours, je faisais une instruction, je suis avocate.
Et vous avez filmé en robe?
Non, je
en
n'ai
robe
pas...
d'avocate. Hein,
je n'ai pas filmé en robe, bien que je l'ai mise plusieurs fois sur le tournage, parce que pour expliquer comment on faisait rebondir des manches quand on plaidait, non pas faire des effets de manches, mais il y a un truc pour... attraper la manche, ce n'est pas très radiophonique, attraper la
l'on
manche
imagine.
Et la faire rebondir sur le poignet. Donc je l'ai mis une fois, mais non, j'ai été omise. Comment dire? Un avocat est non pas arrête d'exercer, mais il est omis, ça veut dire qu'il ne paye plus ses charges le temps où il est salarié donc de ma production. Et puis j'ai recommencé à exercer, donc... Mon arrêté de mission a pris fin et j'ai recommencé à exercer.
Donc toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant existé n'est pas tout à fait fortuite. Vous savez de quoi vous parlez?
Plus précisément, une affaire précise, non. Je parle en général d'une ambiance générale, mais pas d'une affaire précise. Non.
C'est quand même de la fiction.
C'est de la fiction. Toute ressemblance est purement fortuite.
Écoutez-vous au lieu de vous piller.
Culture vive, Pascal Paradou.
Anne-Laure Kerr, derrière la caméra donc pour ce premier film commis d'office, c'est votre combientième vie parallèle? Troisième donc.
Là c'est la troisième.
Hein, troisième, c'est-à-dire avocate, romancière et maintenant réalisatrice de films.
Oui, enfin, il faudrait que j'en fasse un deuxième, car par deux points passe une droite.
D'accord. Est-ce que vous êtes une bonne avocate?
Écoutez, mon mari qui travaille avec moi dit que si je mettais autant de verve dans mes plaidoiries que pour expliquer que je ne ferais pas la table ou que je ne passerais pas l'aspirateur, je serais une avocate absolument superbe, mais il trouve que je ne me mets pas assez en colère et que je ne hurle pas assez mon indignation par rapport à la condamnation d'un trafiquant de stupéfiants ou d'un braqueur. Il a sûrement raison. Enfin, je n'ai pas, comment dire, cette espèce de projection violente de testostérone. Je n'y arrive pas, pour cause. Voilà. Certaines consoeurs y arrivent.
Mais vous écrivez, donc c'est peut-être là où les testostérones agissent.
Peut-être. Hein en écrivant et en ayant un personnage qui est un homme. J'arrive peut-être plus à sécréter de la testostérone, mais là, c'est vrai que j'en manque.
Pourquoi être passé au roman il y a maintenant 5 ans, c'est ça, commis d'office?
Oui.
Le livre date d'il y a 5 ans.
Bah, j'ai toujours écrit des choses plus ou moins chanceuses, d'ailleurs moi, puisque c'est mon premier roman publié, mais j'avais déjà écrit des romans avant et des scénarios. Bah, parce que j'aime bien écrire, tous les écrits avant vous diront la même chose, c'est le principe de nécessité intérieure, on a besoin d'écrire, quoi, voilà.
Alors pourquoi le cinéma maintenant? Pour la même nécessité intérieure?
Alors le cinéma, bah, d'abord parce que c'est un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu en faire, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais toute ma vie a été orientée vers ça, quoi. J'ai fait des études de droit d'auteur, j'ai commencé dans la finance du cinéma, j'aime beaucoup ce milieu. Et surtout, j'aime le côté colo de vacances des équipes, où on part tourner à une cinquantaine, on se connaît, on se voit le matin, le soir, à midi, etc. On vide complètement les uns sur les autres, ça j'aime bien. Le côté classe, et j'aime bien l'immense liberté artistique qu'il y a dans le cinéma qui existe... Enfin, toutes choses égales par ailleurs, parce que la contrainte du financement, mais la liberté artistique est beaucoup plus grande que dans la télévision où on doit rendre compte de ce qu'on fait. Et puis comme j'aime beaucoup les gros mots, eh bien on peut en dire au cinéma, mais pas à la télé, donc voilà.
Donc le cinéma. En tout cas, il y a peut-être une quatrième vie qui s'amorce pour vous, Anne-Laure Kerr, parce que vous apparaissez très brièvement dans le rôle d'un juge avec des petites lunettes rondes au tout début de commis d'office.
Écoutez, je me suis prise moi-même. Je me suis prise moi-même parce que j'ai fait un casting et je cherchais des magistrates, des filles qui jouaient, faisaient de la figuration parlante, hein, qui jouaient une magistrate que je voulais totalement opaque, comme savent l'être les magistrates. C'est-à-dire légèrement désagréable, hautaine et opaque. Et les comédiennes n'arrivaient pas à faire le légèrement désagréable, hautaine et opaque, parce qu'elles mettaient toujours du jeu dedans. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, je vais le faire moi-même. Hein. Et ben, c'est pas évident. Hein.
C'est pas évident du tout.
Oui, c'est très impressionnant de voir toute cette espèce de forêt en face de soi, de caméras, de lumière, de gens, etc., qui attendent à qu'on dise quelque chose. Donc, c'est moteur action. Et là, il y a eu deux A avant que ça démarre. Hein. C'est pas évident.
Heureusement, vous n'avez pas le premier rôle. C'est Roche Dizem qui joue donc ce commis d'office dans la peau d'Antoine Laoud. Alors, il faut dire, un commis d'office, c'est un de ces avocats à qui l'on attribue en fait un dossier quand la personne qui doit être jugée n'a pas les moyens,
revenus,
voilà,
de
se payer un bon avocat.
Venez, maître.
Ah non, moi, c'est, j'ai mon compte pour ce soir.
Vous voyez, avec lui, là, il faut rien.
Comment pas, je fais les mineurs, moi, aujourd'hui.
Allez, maître, pour désengorger un peu.
S'il faut les plaider après, les dossiers, c'est encore un coup jusqu'à minuit, une heure du matin.
Oh, oh !
Vous voyez, tout le monde s'énerve.
Oh, donnez-moi les filles, là.
C'est gentil.
C'est quoi ?
Nigeria, je crois. Elle braille depuis plus de 3 heures, on comprend rien de ce qu'elle dit.
Why do you cry ?
I don't want to go to jail.
You won't go to jail. They will send you back to your country.
We don't want to go back.
C'est pas au Nigeria qu'on les lapide à demi enterré dans le sol. Moi non plus, à leur place, je devrais pas rentrer.
Oh, donnez-moi la première.
Allez, on y va, ma petite dame.
Écartez-vous, s'il vous plaît.
Reculez-vous. Allez, donnez-moi votre main. Bougez pas.
Sauvez-moi, dit la petite dame que l'on vient d'arrêter. Est-ce qu'Anne Lerker, un commis d'office, c'est un sauveur? Est-ce qu'il peut être perçu comme ça, en tout cas,
malheureusement,
par les clients?
Malheureusement, les clients qui sont souvent récidivistes savent très bien qu'on ne peut pas grand-chose pour eux. Quoi. Dans la mesure où on a très peu d'éléments, on a un dossier, quelqu'un qui est lessivé de 20 heures de garde à vue, qui a dormi par terre... qui arrive, c'est une justice d'abattage. On fait 30 dossiers par jour, on ne peut pas y consacrer plus de 10 minutes. Et puis, les comparutions immédiates, c'est quand les affaires sont en état, donc la personne a reconnu les faits pour la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? On sert vertigineusement à rien, comme dit mon personnage.
Votre personnage, oui. En tout cas, là, c'est une scène importante de votre film qui se passe, alors j'avais jamais vu ça, dans une salle du palais de justice, donc,
oui,
où les gens
P12.
Sont en cage, ouais. En P12.
Ça s'appelle la 12e section du parquet, c'est une immense cage où les gens sont entassés dedans. Donc on les monte de la souricière et on les entasse. Et puis nous, on vient les prendre avec les dossiers. Donc on nous attribue on dit celui-là, tiens, je prends ce dossier-là. Et on prend les gens dans la cage. Parfois, elle est tellement bondée que personne ne peut s'asseoir. Bon, ça hurle, ça tape. Voilà.
Mais c'est un décor là pour le film où vous avez tourné?
Alors,
dans les lieux
non,
même?
Non, j'ai pas tourné dans le P12. On a refait le P12 parce que pas qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils ont pas du tout honte de la vétusté de leurs locaux parce qu'ils veulent en changer et que tout le monde réclame que le palais ferme ces lieux qui datent de Louis XI. Quoi, je veux dire, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que c'est en flot continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un week-end ou un jour de fête. Les prévenus arrivent à 6h en fourgon et repartent le soir à 20h et reviennent à 6h. Samedi, jour férié, n'importe quand. Donc, ce n'est jamais vide.
Donc, ça défile, en effet. Et on le voit très, très bien dans votre film, en tout cas dans la première partie du film, qui a un aspect un petit peu documentaire, en fait. Parce qu'on voit des gens défiler, des cas défiler. On ne sait même pas, d'ailleurs, ce qu'il advient des uns et des autres. Il y a un petit gamin qui est pris pour deal, bon, on sait qu'il va finalement partir en tôle, etc. Mais il y en a plein qui se perdent. Vous avez tenu absolument à cet aspect documentaire où on parle beaucoup d'argent aussi, parce que c'est quoi un dossier pour un commis d'office? C'est 300 euros, je crois.
C'est 300 euros la permanence de la journée.
Oui, donc c'est pour 20 dossiers, pour 15 dossiers.
3, 20, 10, 1, peu importe.
Vous revendiquez cet aspect documentaire?
Tout à fait. Enfin, je revendique les deux. La critique m'a allumé sur ce point, mais je ne voulais pas faire autrement. C'est-à-dire que je voulais montrer mon métier. Mais d'un autre côté, si on ne fait que le début de mon film, il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'ouvrir à ça. Donc il fallait une histoire en plus de ça. Il fallait ouvrir le film à un plus grand public.
Oui, il y a une sacrée histoire quand même, parce que l'Aoud qui est donc...
Mais le côté documentaire, c'est le quotidien de mon métier que j'ai essayé quand même de rendre rigolo pour chaque petit module... En montrant le caractère totalement absurde de ce qu'on fait, mais c'est tellement ça, quoi, que...
Oui, on imagine bien que ça peut être comme ça. En tout cas, après, il y a une histoire, en effet, parce que ce fameux Laoud, qui est un homme quand même qui a des croyances, mais qui est aussi très, très désabusé. Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas.
Il y a un journaliste qui m'a résumé la situation, il m'a dit « l'argent corrompt et l'absence d'argent corrompt ».
C'est pas mal.
Mais c'est vrai.
C'est pas mal, c'est dommage que ce soit pas moi. J'aurais bien aimé trouver la formule. En tout cas, il va être embarqué dans une sacrée manip. Il va devoir jouer un tour de passe-passe et en fait se substituer à un gangster qui a pris 20 ans de tôle.
Putain, c'est qu'il a peut-être raison, ce con. Ça le fait, non ?
Oui, bonjour. Bonjour.
Sérieux, tu remarques rien ?
Non ? Quoi ?
Tu me ressembles. La moitié de ma part. Soit 2 millions d'euros sur un compte en Suisse. On t'accompagnera. Tu ouvres le compte toi-même. Tu déposes la somme et tu reviens me voir pour faire l'échange.
Attendez, de quoi vous parlez là ? Quel échange ?
On est sosie, je te dis.
Écoutez, célèbre tout ça, c'est ridicule, on se ressemble pas du tout, ça marchera jamais.
Bien sûr que si, ça marchera. Les matons, ils sont pas compliqués. Ceux qui entrent des survêtes et des cartes de détenus. Ceux qui sortent, des costumes ou des uniformes. Et la reconnaissance numérique d'empreinte, c'est que quand on revient du parloir famille. Pour le parloir avocat, y a rien. Juste la fouille. Qu'est-ce qui peut merder dans ce temps,
Vous me faites mal.
Qu'est-ce qui pourrait bien merder ?
Tout !
Rien ! Si tu fais ce qu'on demande, rien ne va merder.
Je vais vous laisser.
Surveillant !
Donc l'avocat va se faire passer pour un détenu, c'est en fait toute l'intrigue de ce film. Il y a une sombre manipulation orchestrée par un avocat véreux qui répond du nom de maître Henri Marsac. C'est déjà arrivé ça, Anne Lorquer ?
C'est arrivé, mais pas avec des avocats. C'est arrivé avec un membre de l'ETA qui s'est interverti avec son frère. Avant la loi Perben 1 de 2002, l'évasion n'était pas punissable par le droit pénal, qui est une interprétation stricte. Or, la loi pénale disait que l'évasion était punissable quand il y avait des bris ou des violences. Et l'interversion, il n'y a ni bris ni violence. Donc, la personne qui s'est enfuie n'a pas été poursuivie pour évasion, puisqu'il n'y avait ni bris ni violence, et son complice, c'est-à-dire son frère qui a pris sa place, non plus, puisque la complicité d'une infraction non punissable n'est pas punissable.
Mais depuis, ça a changé, parce que dans le film, en l'occurrence, Laoud est condamné, parce que l'affaire va marcher.
Oui.
Et Laoud va se retrouver, alors là, il y a des scènes absolument extraordinaires, Laoud se retrouve en cellule avec certains de ses anciens clients, dont notamment un proxénète albanais à qui il va lire Flaubert. Je trouve ça absolument assez extraordinaire. C'est une tentation pour un avocat de se retrouver de l'autre côté des barreaux. Là, je parle à la pénaliste que vous êtes, Anne Lorquer.
C'est une tentation si quand il sortait, il faut vraiment qu'il bénéficie d'un non-lieu. Un pénaliste qui va en prison et qui sort et qui bénéficie d'un non-lieu, il a un nombre de clients potentiels. Enfin, c'est un truc invraisemblable.
Mais donc ça fait rêver, ça peut faire rêver.
Oui, c'est le baveux qui est allé en prison. C'est en un mot, on devient un produit marketing du délinquant, quoi.
Question ressemblance, Anne Lorquer, votre Antoine Laoud, qui est donc joué par Roche Dizem sur la pellicule, ne ressemble pas du tout à celui du roman. Pourquoi avoir changé et avoir choisi un profil comme ça d'avocat d'origine maghrébine quand l'autre était plutôt un peu plus petit, un peu plus juif.
C'est deux raisons. Le personnage de mon roman, qui est Christophe Lebovitz-Berthier, il est l'expression de ce qu'est pour moi un pénaliste, que je suis, ce qu'est mon mari, ce qu'en sont les gens avec qui je travaille, qui sont première génération française, c'est-à-dire qui n'ont pas de terreau de clientèle quand ils s'installent. Donc quand vous n'avez pas de famille en France, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du pénal en général. Donc voilà. Et un avocat pas vraiment juif, etc., à l'image, ça ressemble à quoi ? Donc quand on m'a proposé Roche Dizem, parce que quand on fait un premier film, en fait, vous n'avez qu'une idée, c'est que quelqu'un de connu prenne le scénario. Parce qu'un premier film, premier producteur, premier truc, premier, s'il c'est aussi un acteur inconnu, le film, il est mort-né. Donc d'abord, il ne trouve pas de financement, puis en plus, il est mort-né. Donc quand on dit tel acteur s'est intéressé à ton sujet, bon, c'est fantastique. Donc j'ai commencé à réécrire pour un Antoine Laoud qui est maghrébin. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dit, mais j'ai réécrit quoi là? D'ailleurs, qu'est-ce que je mets? C'est ridicule et ça n'a pas changé d'une virgule par rapport à Christophe Lebovitz, qui est comme ça, qui s'appelait dans la première mouture du scénario.
Cela dit, Roger Zeb est un formidable acteur.
Ah, il est génial dans le rôle.
Absolument extraordinaire. Et il est parfait en justicier assez teigneux, obstiné et déterminé à se venger. Parce qu'il y a quand même cette dimension. Hein, ce Laoud veut un peu la peau de ses supérieurs, de ses riches avocats et des stars du barreau.
Il s'est complètement réapproprié le côté mauvais élève du personnage de mon roman. C'est-à-dire, le côté qui arrive à cette espèce d'immense puissance qu'ont les gens qui arrivent à s'aborder complètement.
Face à face entre le commis d'office et le bâtonnier.
Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Laoud ?
Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais rien ne va. Vous en avez déjà reçu, vous, dans votre joli cabinet à Vieux Montaigne ? Des types qui vous défèquent sur les pieds ?
Je vais veiller personnellement à ce que vous soyez rayé de la liste des commis d'office. Vos cotisations, si le bâtonnier n'avait pas une grande âme, le barreau vous aurait déjà régurgité.
Alors, il n'y a que ceux qui défendent les grosses légumes pourries qui trouvent grâce à vos yeux, hein ? N'est-ce pas ? C'est parce que vous en bavez d'envie de leur mirobolance d'honoraires. Alors que les gens comme moi, des lumpen avocats. Alors, combien je vous dois ? 1337,22 € pour que je puisse bosser, c'est ça ? C'est sûr que quand il s'agit de la ramener devant les journalistes sur la présomption d'innocence bafouée, sur l'abus de la détention provisoire, là c'est sûr que vous êtes en première ligne. À propos, cher confrère, dans la FUSAC, la fusion-acquisition, vous en faites, vous, la présomption d'innocence ?
Vous n'êtes qu'un voyou qui déshonore la profession.
Et vous, maître machin chose, êtes à notre profession ce que le chihuahua est au chien, c'est-à-dire une vieille chose tremblotante et dégénérée pour vieille dame.
C'est de l'insulte, grand style, je trouve, à l'orchestre. On reconnaît l'écrivain qui a le sens de la formule.
Écoutez, l'ancien bâtonnier de Paris qui a vu mon film en avant-première, quelqu'un qui était assez à côté de lui m'a dit qu'il a fait oumph, c'est passé au fond de son siège.
Mais oui, parce que vraiment, j'ai l'impression quand même que vous réactivez quelque chose comme la lutte des classes à l'intérieur de la magistrature. Est-ce qu'elle est vraiment aussi vive que ça ? Est-ce qu'un dialogue comme celui-là est possible, enfin,
vous ne pouvez pas tomber plus juste. C'est totalement de la lutte des classes à l'intérieur du barreau. Hein. Je suis extrêmement remontée par rapport à mon barreau qui est en train de laisser mourir les avocats indépendants. Parce que Paris, c'est Versailles sous l'Ancien Régime, quoi.
Donc, vous avez voulu régler quelques comptes ?
Ah oui, parfaitement. Je revendique totalement, oui.
Vous assumez ça ?
Absolument.
Donc, vous êtes un petit peu la Antoine Laoud de...
Non, mais qui va défendre la dame africaine qui donne le sein dans la salle d'attente ? Qui va défendre le shish kebab pour son bail commercial ? C'est le cabinet Lefebvre ou Loirette ? Qui ? Sauf que les petits avocats sont en train de disparaître les uns après les autres. Il y a eu 2200 procédures de liquidation judiciaire depuis 2005 sur le barreau de Paris. C'est énorme.
Mais la faute à qui, vraiment ?
La faute à tout. La faute aux loyers qui augmentent. La faute que l'ordre... Il y a plein de... On ne va pas rentrer dans le technique, mais la faute que l'ordre ne se bat pas pour que résistent ces avocats artisans, quoi. Qui ne peuvent pas résister quand toutes les mesures de paiement de cotisations, etc., sont prises pour des gros cabinets richissimes, qui sont le cas, qui ont leur siège à Paris, quoi. Et qui font les 22 000 avocats parisiens, la plupart sont salariés dans un énorme cabinet.
Donc vous pensez que les justiciables, c'est-à-dire vous et moi, enfin moi surtout, plus que
de
vous,
Paris intramuros, ouais.
Sommes éventuellement en danger de ne plus pouvoir être défendus.
À Paris intramuros, Dieu merci, mais les gens n'ont pas ce réflexe-là. Peuvent aller à Bobigny, à Créteil, prendre des avocats de Bobigny et Créteil pour plaider sur Paris. Mais aujourd'hui, on ne peut pas payer un divorce à Paris intramuros, c'est trop cher, quoi.
Parce que paradoxalement, il y a une réforme de la justice en ce moment, avec suppression du juge d'instruction et renforcement des droits de la défense. Les avocats, les commis d'office vont pouvoir intervenir dès la première heure de garde à vue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ?
Rien.
C'est-à-dire ?
Je n'en pense rien. Qui va aller ? Déjà, pour aller en garde à vue, je peux dire qu'il y a très très peu de pénalistes qui y vont. On y va quand les familles sont vraiment très riches et qu'ils sont... Bon, aller en première heure de garde à vue quand on n'a pas le droit d'accéder au dossier, je ne vois vraiment pas l'intérêt. On va faire quoi ? On donne une cigarette ? On ne peut même plus donner une cigarette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne connaît pas la procédure en première heure de garde à vue. C'est juste pour voir que l'intégrité physique de la personne, pour voir si on ne lui pète pas la gueule pendant la garde à vue. Mais c'est tout ce à quoi on sert. Tant qu'on n'a pas accès à la procédure, à quoi on sert ?
Donc, vous continuez à être avocate ? Plus
oui,
que jamais.
Tout à fait.
Où il y a de la reconversion dans l'air ?
plus que jamais, je caresse l'espoir de pouvoir faire autre chose. Mais voilà, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des spectateurs qui iront voir ce film. S'il y en a pas assez, je vois pas comment, alors que la profession cinématographique m'attend quand même au tournant. Est-ce qu'on va me redonner ma chance? C'est pas évident du tout.
Ça on verra plus tard. On va espérer. Mais je vous posais cette question, Anne Lorquer, parce que vous me disiez, j'adore les gros mots, et puis vous êtes resté vraiment dans un français absolument impeccable. Jusqu'à là, péter la gueule, vous avez osé dire, alors qu'on parlait de justice et de politique. Donc je me suis dit quand même qu'il y avait dans les affaires de la réalité, dans les affaires de la justice, quelque chose qui provoquait chez vous la colère.
Oui, tout provoque la colère. D'abord, les lois pénales se sont tellement radicalisées que, pour moi, les peines planchers, c'est une hérésie absolue. Des taux d'occupation de 140%, 137% des prisons. Des gens qui ont 4 ans de peine planchée pour avoir vendu deux fois des barrettes de shit, c'est pas possible, quoi.
Donc c'est même pas grandeur et misère de la justice justice française.
En fait, la chose qui me révolte le plus, c'est que le grand public ne comprend pas que quand on défend des truands, c'est pour les libertés publiques, pour rendre les libertés publiques vivantes, et que le jour où ils vont se faire arrêter, eh bien ça leur profitera à eux. Tout le monde n'est que dans un discours sécuritaire, du tout en tôle, du tout répressif, mais ne savent pas, et on a des milliers de gens, monsieur tout le monde, quand ils commencent à être pris dans les mailles de la justice, ils crient à l'horreur et au désespoir, et tout d'un coup ils découvrent un monde, mais on dit, mais pour qui avez-vous voté? Je passe la réponse, et là on dit, ben voilà, c'est la société que vous avez choisie. Alors maintenant, vous êtes dedans. Bah écoutez, on va faire avec.
Merci Anne Lorquer. Commis d'office, un bon film et un film politique, je trouve ça pas mal, surtout quand il est bon. À l'affiche depuis mercredi, en lui souhaitant longue vie et pour vous revoir pour un prochain roman ou un prochain film.
Merci.
Est-ce que vous connaissez Warp? C'est pas un gros mot, hein.
Est-ce que je connais Warp? Non, je ne connais pas Warp.
C'est un label de musique électronique expérimentale qui fête ses 20 ans. Écoutez. À mon secours, ceci est le premier morceau de Fog Masters, édité donc sous le label Warp.
En 1989, 20 ans déjà, hein, ça ne rajeunit pas du tout, hein, Pascal.
Il y a 20 ans, c'était bien aussi. Regardez, on peut encore écouter ça.
Mais à l'époque, c'était une musique étrange qui ne ressemblait à rien de déjà entendu. C'était vraiment un pari risqué pour les deux amis fondateurs du label, Steve Beckett et Rob Mitchell. Ouvre d'abord un magasin de disques dans la banlieue de Sheffield en Angleterre. Ils baptisent les shops Warp. We are the reasonable people. Les gens raisonnables se rendent compte de l'importance de la musique, de cette musique, et fondent rapidement leur propre label de projets radicaux. La petite maison de la prairie, on peut l'appeler comme ça, est devenue un laboratoire expérimental pour toutes sortes de musiques. Une sorte, disons, de foyer pour les musiciens exclus des circuits traditionnels de la musique. La techno n'était pas à la mode, la musique électro, c'était un ovni. Donc il fallait absolument produire des vrais disques, des vrais albums. Intuition confirmée pour le label aux 4 lettres. Il a fabriqué des tubes mondiaux en accompagnant tous les styles, donc du hip-hop abstrait au drum and bass de Détroit, des phénomènes au départ comme LFO, plus tard avec DJ Mujava, le sud-africain. Warp donc est bien plus qu'une simple marque opposée sur le petit rond. Vous voyez des disques vinyles, maintenant il y a des vrais CD aussi. C'est un signe vraiment d'exigence et de grande qualité.
Oh,
Queen, c'est ça, hein, José, ce qu'on entend. Avec un album assez étonnant, parce qu'il y a sur la pochette un homme à barbe et à très gros seins. Très gros. Hein.
Avec Twin, donc l'insaisissable mixeur bidouilleur, c'est l'une des stars du label. Mais au-delà du son, l'image est très importante pour ce label. Donc là, par exemple, les pochettes des disques ont vraiment un concept, les vidéoclips également. Et là, par exemple, c'est l'éloge carrément du poil dans un corps féminin. Voilà,
oui, c'est un montage, il faut quand même le préciser. Alors, tout ce beau monde, donc tous les musiciens de Warp se retrouvent pendant 3 jours à la Cité de la Musique, à la Villette, à Paris, ce week-end.
Jusqu'à l'aube, 6h du matin, voilà, on va remémorer tout ça, cette grande époque, et redécouvrir pour les plus jeunes. Donc il y a aussi notamment Jackson, le petit français, qui, je crois que c'est le seul et unique qui fait partie actuellement du label. Et si je ne me trompe pas, Laurent Garnier a sorti un disque historique, un maxi en 93, donc il faut un peu fouiller pour le confirmer. En tout cas, la fête, elle est là pour ce week-end.
Fête de Warp ce week-end à la Villette avec Jackson, entre autres, et son computer. Culture Vive avec Florence Ponce, à réalisation signée Nicolas Piga, Thomas Ferrière à la technique. La semaine prochaine, ce sera la semaine du Festival de Cannes. Nous y serons à partir de jeudi. Mais dès lundi, nous parlons cinéma avec les cahiers du cinéma, forcément. Bien à vous, à lundi.